je dis vaut pour la communauté internationale. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres.
Ah là là, il nous a posé ça sur la table à France Inter. Et puis il est parti, Nicolas Hulot. Les feux de forêt, les inondations, les catastrophes naturelles qui font des réfugiés climatiques en Asie et en Afrique, mais qui touchent de plus en plus directement nos sociétés, nos entreprises, nos états-providence. Que nous a-t-il dit ? Il nous a dit que le problème, c'est notre modèle d'échange et de production. Le capitalisme libéral mondialisé est-il définitivement incompatible avec l'environnement ? On peut aussi le regarder autrement, hein. On peut le regarder pas comme Hulot, mais comme Trump. Peut-on dire que la lutte contre le réchauffement, toutes ces normes, ces contraintes écolo, tuent la croissance ? Jobs, jobs, jobs. Écologie et économie, est-ce un oxymore ? Intellectuellement, moi j'ai envie de croire qu'il est possible de concilier les deux. Des usines, des villes, des transports, des énergies, ne pas vivre moins bien mais apprendre à vivre autrement, c'est ça la promesse de la transition. Il faut beaucoup de volonté et énormément d'investissement pour ce « en même temps-là » écolo et éco.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et toute l'équipe est là, heureuse de vous retrouver jusqu'à 10h dans le Mag Écho. Le réalisateur s'appelle Coy Nguyen. Maud Benakcha est attachée de production. La technique ce matin, c'est Pierre Faucillon qui nous accompagne. Alors bien sûr, les débatteurs sont à mes côtés. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra. Si vous permettez un petit mot personnel.
Oui, vous avez l'air ému.
Ouais, aujourd'hui, ça fait exactement 20 ans jour pour jour que j'ai rejoint Alternatives Économiques. Voilà, je suis très fier d'être dans ce collectif.
Un homme fidèle, j'en suis sûre. Emmanuel Le Chypre de BFM Business, sans transition alors. Hein.
Oui, mais qui ne désespère pas d'infléchir la pensée de Christian sur certains points au cours de cette nouvelle saison, Alexandra.
Ça vous a pas manqué cet été de pas un petit peu titiller Christian ?
Mais Christian, il me manque toujours.
Nicolas Hulot sur France Inter, un ministre qui pose la question éco du 21e siècle. En tout cas, c'est mon avis. Peut-on rechercher à la fois la croissance et l'écologie ? Christian Emmanuel, ce sera notre débat. Le prélèvement à la source, est-ce qu'il va être reporté, enterré ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, est notre invité ce samedi. On parlera aussi bien sûr avec lui du budget en préparation et des économies programmées. Rendez-vous à partir de 9h35 environ. Au programme, bien sûr, c'est la rentrée, on est tellement heureux de la retrouver. Ma vie au boulot ! Bonjour Sandrine Foulon !
Bonjour Alexandra !
Sandrine en pleine forme, et justement, ça tombe bien, vous nous parlez santé ce matin.
Et oui, je vais vous parler d'un dossier qui passe un peu sous les radars, c'est la santé au travail.
Vous nous direz si c'est grave, docteur. L'homme n'est pas fait pour le travail, n'est-ce pas Emmanuel ?
La preuve, moi ce que je constate, c'est que plus la durée de travail diminue, plus on vit vieux, donc...
Donc,
y a quand même peut-être...
Une corrélation. Allez, tout de suite, croissance, écologie... Le « en même temps » est-il une utopie ?
?28 août 2018.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie.
Nicolas Hulot.
Je ne veux plus me mentir.
Ministre de la Transition écologique.
Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Il s'est confronté,
Pascal Canfin,
comme tous les ministres de l'environnement précédents,
directeur du WWF,
au fait que l'État, aujourd'hui, n'est pas organisé pour produire la transition écologique à l'échelle dont on a besoin.
Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ?
Nicolas Hulot.
La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité ? La réponse est non.
J'entends...
Benjamin Griveaux.
La déception qui peut être la sienne.
Porte-parole du gouvernement.
C'est un travail de longue haleine, le travail pour la biodiversité, pour la défense de l'environnement, pour la transition énergétique. C'est pas... On peut avoir des résultats, et Nicolas Hulot le sait, en une année seulement. Ça prend du temps.
Eh bien, je crois que dans le constat que faisait Nicolas Hulot à cette antenne...
Pierre Rosanvallon.
C'était justement de constater qu'on ne mobilise pas.
Professeur au Collège de France.
Et quelle est la raison de cette non-mobilisation ? C'est la difficulté d'articuler des projets de long terme et puis des intérêts de court terme.
Il y a un appétit de croissance dans les sociétés modernes qui s'avère...
Daniel Cohen.
Inextinguible.
Économiste.
Et donc, chaque fois qu'on laisse entendre qu'il faudrait renoncer à un chouïa de ce progrès matériel au nom d'impératifs plus vastes, on sent immédiatement des crispations. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est tout simplement quelque chose comme une incapacité nouvelle à se projeter dans l'avenir dont la crise écologique et la difficulté de la résoudre est l'expression.
Ce que je dis vaut pour la communauté internationale.
Nicolas Hulot.
On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres.
Il y avait un malentendu.
Arnaud Gossement.
L'un ne jure que par l'économie, l'autre que par l'écologie. Non, Nicolas Hulot est un pragmatique.
Avocat, spécialiste en droit de l'environnement.
On oppose écologie et économie. On ne se rend pas compte que les énergies renouvelables, ce sont des emplois, etc. Non, c'est toujours un coût. C'est un coût, l'écologie. Ce sont des taxes, c'est des dépenses. Ce n'est pas effectivement facile à expliquer, l'écologie, et ce n'est pas encore pris au sérieux. C'est un ministère parmi d'autres.
On a bien écouté Nicolas Hulot. La France de l'accord de Paris, les discours sur la planète à préserver, Emmanuel Le Chypre. En réalité, ce qu'il nous a dit, c'est que nous ne sommes même pas engagés dans la transition énergétique. C'est vrai, ça ?
Là, on a une illustration de l'idée que, en France, vous savez, on a toujours l'impression que quand on a un problème, on fait une loi et on a résolu le problème. Et ben là, le sujet de l'écologie, on voit bien que c'est malheureusement pas le cas, parce que des lois, on en a eu, des politiques qui s'emparent du sujet, apparemment, quand même, on en a eu. Rappelez-vous, pour ne pas remonter très loin, Nicolas Sarkozy avec son Grenelle de l'environnement. Alors après, il a un peu tourné Kazakh en devenant pas climato-sceptique, mais enfin, moins engagé, mais il y avait quand même eu des choses dans le Grenelle de l'environnement. François Hollande, bon, il y a ce fameux accord de Paris qui a été spectaculaire, mais il y a quand même la loi de transition énergétique de Ségolène Royal, qui est quand même une loi 212 articles, avec des mesures précises pour les ménages, pour les entreprises, pour les collectivités locales.
Pour répartition de notre mix énergétique.
Oui, effectivement, il y a des projections, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'engager dans cette transition. Et finalement, quand on regarde les résultats, c'est vrai que c'est quand même assez décevant. Si vous prenez par exemple les émissions de CO2, bah on se rend compte qu'elles augmentent à nouveau.
En 2017.
Ouais, elles ont à nouveau augmenté. Si vous prenez la consommation de pesticides, on a l'impression que la consommation de pesticides diminue, mais en fait pas du tout. Elle ne baisse pas. Les ventes de voitures à l'ancienne entre guillemets, bah elles continuent à augmenter aussi. Alors on peut se réjouir qu'il y ait un peu plus d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, mais ça reste quand même faible. On peut se réjouir que les Français consomment davantage de bio, mais on est quand même très loin du compte.
Vous êtes d'accord avec Emmanuel, Christian ?
Oui, bien sûr. Au-delà de la loi, on n'a pas fait grand-chose. Alors, en même temps, quand on regarde 90-2016, nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont quand même diminué de 14%. On pourrait se dire, on a peut-être un petit peu commencé à changer de modèle. Mais non, parce qu'en fait, c'est l'effet d'une part de la désindustrialisation de la France et d'autre part de la crise de 2007-2008 et de ses effets. En fait, vous l'avez dit, Alexandra, Emmanuel l'a dit, nos émissions de gaz de CO2 sont reparties en 2017, plus 3,2. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est un problème général. Non, on fait moins bien que les autres pays européens.
La Chine fait beaucoup plus vite.
Mais même les autres pays européens qui sont juste autour de nous, pendant qu'on a baissé de 14, les autres pays européens ont baissé de 22. On est complètement en retard.
Et dans ce tableau-là, qui est quand même un petit peu noir, est-ce qu'on peut faire le bilan, Macron ? Est-ce qu'il ne s'est vraiment rien passé depuis son accession au pouvoir, Emmanuel ?
On a eu des paroles assez fortes. Hein. Tout le monde, effectivement, se rappelle du mec hors planète, avec l'accent, mais c'est la rentrée, c'est difficile, ça va revenir. Mais quand on regarde finalement les actes, tout est décevant. Alors, bon, le nucléaire, c'est un sujet particulier parce que certains considèrent que s'engager dans le nucléaire, c'est aller vers cette transition écologique. Mais enfin, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même eu un recul de l'ambition de réduction de la part du nucléaire. Les perturbateurs endocriniens, c'est en deçà de ce qui était attendu. Sur le glyphosate aussi. Alors oui, il y a eu l'interdiction, par exemple, de vendre des voitures diesel et essence à partir de 2040. Ça, c'est effectivement un progrès. L'arrêt de la recherche de l'exploration pour les hydrocarbures. Notre-Dame-des-Landes, on met ça à l'actif de Nicolas Hulot, mais il n'y a pas beaucoup de rapports entre Notre-Dame-des-Landes et la transition écologique. Donc il y a quelques succès, mais enfin, c'est quand même aucune inflexion de tendance forte chez Emmanuel Macron en faveur de l'environnement.
Ouais, il y a des plus et des moins, moi je trouve. Il y a quelques plus. Les plus, c'est quoi ? C'est que le président a quand même accéléré sur la fiscalité carbone. À chaque fois que vous êtes une entreprise, un ménage, vous émettez plus de CO2, bah, va falloir payer un peu plus cher. Pour nous, ménage, ça se voit dans les prix de l'essence, par exemple. Et puis, l'accord de Paris avait dit, l'objectif, c'est le fameux facteur 4. Il faut qu'on divise par 4 nos émissions de CO2. Nicolas Hulot l'a dit, non, c'est pas suffisant. En plus, je veux que la France, elle soit neutre sur le plan du carbone. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émet du CO2, on a nos forêts, oxygène aux plantes qui permettent d'en séquestrer dans le sol, il ne faut pas qu'on en émette plus que ce qu'on est capable de séquestrer. Et donc, comme on est capable d'en séquestrer à peu près aujourd'hui, sous réserve de l'amélioration technologique, 50 millions de tonnes de CO2, ça veut dire que c'est beaucoup plus que divisé par 4. Donc, il avait fixé un objectif plus ambitieux. Le problème, ça c'est les deux plus, le problème c'est que derrière, il y a deux mois, c'est que pour faire ça, il y a de l'argent, il faut de l'argent. Or, l'argent...
C'est la condition du en même temps, écolo-éco, si on fait la transition, mais... il faut des milliards d'euros, c'est ça, Christian.
Oui, alors il y a...
Il ne faut pas des milliards d'euros, il faut des dizaines de milliards d'euros.
Merci, c'est ça. Voilà. C'est ça.
Alors qu'aujourd'hui, tout ce qui est avancé sur la table, c'est plutôt quelques milliards par an, alors que c'est quelques dizaines de milliards qui seraient nécessaires.
On a un de la Caisse des dépôts, donc voilà, qui nous dit qu'il faudrait en gros entre 45 et 75 milliards par an. Cette année, on fait... Enfin, cette année, oui. Ces dernières années, on fait plutôt 30 milliards. Donc, il manque tout le reste. Un exemple concret, la rénovation thermique des bâtiments, c'est là où il y a le plus d'écart entre ce qu'il faudrait mettre sur la table et ce qu'on met. On dépense un peu moins de 10 milliards, il en faudrait 20, dont 7 de l'État, qui en dépense combien en fait ? 3. Et là, il n'y a pas du tout d'inflexion budgétaire de la part du gouvernement. Pour essayer de vraiment engager la transition écologique. Nicolas Hulot a raison.
Ce que vous dites, en fait, quand vous dites que le gouvernement devrait mettre, ce sont des incitations fiscales pour qu'on fasse tout
de la
rénovation.
Oui, ou même de la dépense publique, puisque regardez la rénovation thermique des bâtiments, qui est quelque chose clé si on veut réduire nos émissions de CO2. Et Nicolas Hulot avait dit 500 000 par an. Mais on n'arrive pas à le faire. Et pourquoi ? C'est juste une question d'argent. Et on sait très bien que pour cette transition énergétique, dès que le public met de l'argent, le privé suit. Il ne faut pas attendre du privé qu'il fasse tout seul. Et là, l'incitation par le public, elle ne vient pas.
Emmanuel, vous l'avez dit, la grande question aussi, c'est le nucléaire. On vous fait un tableau de petits pas ou de pas plus ou moins importants sur ce qui a été fait ces dernières années. Mais maintenant, on a des grandes questions sur la table. Il me semble que la plus grande question, c'est le nucléaire, vous l'avez dit.
Oui et non, parce que d'abord le débat sur est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir, peut-être pas, mais en revanche, c'est quasiment sûr que c'est une énergie de transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, objectivement, quand vous mettez tous les paramètres de l'équation sur la table, vous ne pouvez pas aller vers une transition énergétique vers les énergies renouvelables qui, en même temps, se passe du nucléaire. C'est beaucoup trop coûteux. C'est pas possible. Donc voilà. Après, est-ce qu'à terme, il faut en faire une énergie durable pour l'avenir ? C'est pas sûr. Mais arrêtons quand même aussi. Vous dites, le nucléaire, c'est le sujet principal. Non, parce que là encore, on est que sur le sujet de la production d'énergie. Et le sujet, c'est pas seulement la révolution énergétique, c'est la révolution écologique qui va beaucoup plus loin. Parce que ce qui compte aussi, c'est de pas consommer. L'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Et on pourrait, il faut le rappeler, on pourrait vivre de la même façon qu'aujourd'hui en consommant 20% d'énergie en moins. Donc le nucléaire, c'est une partie de la discussion, mais la révolution écologique, qui est la révolution des comportements, des modes de consommation, des modes d'urbanisation, etc., sur ces sujets-là, on a quand même très peu avancé et on a très peu de pistes.
Christian.
Et à la fois sur la réduction de la consommation et sur la production, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit revenir cette année. On l'attend.
Ça, c'est
là.
L'actualité. Ça, c'est pour ça peut-être que je suis mal exprimé. En fait, c'est le gros dossier là qui est
et
sur
nous,
la table.
Et nous, je peux vous révéler qu'Alternative économique, on a eu le document confidentiel de fin juillet du gouvernement pour savoir ce qu'il préparait en termes de consommation, en termes de production.
Alors,
qu'est-ce qu'il y a dans ce document ? Économie d'énergie, pour vraiment tenir, on devrait faire moins 3,2% de conso énergétique par an. Aujourd'hui, on fait moins 1,5. Solution proposée, rien. Sur la production, il y a un scénario absolument incroyable que le gouvernement, pour l'instant, pour le document de fin juillet qu'on a vu, tient, avec une forte hausse à partir de 2025 de la demande d'électricité. Que personne n'y croit, aucun expert n'y croit, sauf le gouvernement. Et bien évidemment, pourquoi il dit ça, le gouvernement ? S'il y a une forte hausse de la consommation, vous pouvez avoir un peu plus de renouvelables et maintenir et diminuer même la part du nucléaire et la ramener à 50%, mais avec beaucoup de réacteurs, voire avec ce que demande EDF. On prolonge nos vieux réacteurs de 40 ans à 60 ans et après on fait des EPR. Et là, vous voyez, ça maintient le nucléaire, mais ce scénario pour maintenir le nucléaire aujourd'hui avec tous les réacteurs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forte demande de conso. Personne ne parie. Au contraire, on est plutôt sur une baisse de la conso en France, dans les grands pays industriels.
Sauf qu'il y a une illusion qui a tendance à se développer, parce que quand on parle de cette nouvelle économie, de ces nouveaux circuits économiques, on mise beaucoup sur tout ce qui est économie digitale, numérique, etc. Et on a tendance à considérer que cette économie digitale, elle est dématérialisée finalement.
Bon, elle consomme l'énergie.
Et voilà. Et ce qu'on a tendance à sous-estimer, c'est ce que ça consomme en matière d'électricité, ce que ça consomme en matière de ressources naturelles, de métaux rares, etc. Et rappelons que pour la planète, l'extraction de ces métaux rares, c'est beaucoup plus dévastateur que l'extraction du pétrole ou du gaz, par exemple. Donc attention à cette illusion que cette nouvelle économie de la solution, qui est l'économie dans laquelle on allie les biens, les services, avec le numérique, c'est une économie qui est économe en ressources énergétiques.
Donc on peut concilier, c'est la phrase de la fin, on peut concilier écologie et économie à condition d'y mettre énormément d'investissements et de faire des choix
Je pense que capitalisme et écologie sont tout à fait compatibles. C'est un capitalisme où l'investissement public est fort parce qu'il entraîne l'investissement privé, parce qu'il est créateur d'emplois. Et il ne faut pas aller chercher des milliards, il faut juste les milliards qu'on met pour subventionner les énergies fossiles, il faut simplement les enlever et les mettre pour subventionner la transition
écologique. Ah, mais ça touche des entreprises, ça touche des emplois,
oui,
Christian.
Oui, ça crée beaucoup d'entreprises, ça crée beaucoup d'emplois. Et quand Nicolas Hulot dit « la société civile derrière moi, mes troupes, elles sont où ?» Eh bien, les investissements de la transition, il faut les sortir du calcul du déficit public. Et là, la société civile se mobilise pour ça.
Emmanuel Le Chypre et Christian. Oui, Emmanuel.
Dès l'instant où la transition énergétique, c'est de l'innovation, c'est forcément de la croissance.
Et de l'emploi.
Le vrai sujet, c'est quand même de redonner de la valeur au temps. Le temps n'a plus de valeur aujourd'hui. Redonner la valeur au temps. Mais ça, c'est pas génétiquement lié au capitalisme. Donc oui, il y a une forme de capitalisme qui peut aider à la transition énergétique.
Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. Vous restez à mes côtés puisque dans 10 minutes environ, entretien avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Quel choix pour le prochain budget, celui de 2019? Quel avenir, ça c'était la question de la semaine, quel avenir pour le prélèvement à la source? En Finlande, avant-hier, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été très très prudent.
Moi je veux voir en détail ce que ça veut dire pour chaque salarié. Comment les problèmes vont être réglés, quelle sera l'expérience. Donc je n'ai pas d'idée préconçue, j'ai plutôt l'intention de conduire cette réforme à son terme, mais j'ai pour cela besoin d'une série de réponses très précises et d'être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place, si on décide de le mettre en place.
Si on décide de le mettre en place. Changement de discours quand même. Aujourd'hui, pour de nombreux Français, ce prélèvement, c'est beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes, pour certains, de l'ignorance. Notre reporter Anna Elverzo l'a constaté dans le centre-ville de Lille.
Voilà, là, il y a des clientes qui attendent pour se faire couper les cheveux. Et là, c'est un salon de coiffure qui fait aussi salon de beauté aussi.
C'est ça.
Et Rémi Bureau, vous avez combien d'employés au total?
Alors aujourd'hui, je dirais environ 50 ou un peu plus de 50.
Et du coup, pour le prélèvement à la source, est-ce que vous y êtes préparé? Qu'est-ce que ça change pour vous?
Dès le début de la création de mes salons de coiffure, je me suis toujours rapproché d'un expert comptable. J'ose espérer aujourd'hui qu'il est effectivement au courant de ce qui va nous arriver au 1er janvier 2019, à savoir le prélèvement à la source.
Il vous en a parlé?
Non, pas encore.
Ah.
J'avoue que je n'ai aucune information de mon prestataire aujourd'hui.
Est-ce que vous en avez parlé avec vos salariés, avec vos employés?
Je n'en ai pas encore parlé. Parce que j'ai pas le sentiment qu'ils s'attendent à être prélevés sur leur salaire du montant de leur impôt mensualisé.
Vous pensez qu'ils sont pas au courant du tout?
Très clairement.
Et ce que vous vous dites, c'est que ça va être à vous de leur en parler et que du coup, ça risque de compliquer un peu vos relations?
Et oui, je me dis que ça va être à moi de le faire, puisque c'est quand même nous qui remettons les fiches de paye au quotidien, qu'il va y avoir sur les fiches de paye dès le 1er janvier 5, 10, 13, 8% de moins que sur le net à payer actuel. Je vois comment ça va venir, c'est quand même moi qu'on va appeler quand il y aura un problème sur la fiche de paye au sujet du taux.
Eh oui, c'est à craindre ça, Rémi. Prélever l'impôt directement sur la feuille de paie, sur la pension de retraite, ça n'est vraiment pas une idée nouvelle. On en parle depuis les années 70 avec Valéry Giscard d'Estaing. En 2006, ça a bien failli se faire avec Thierry Breton à Bercy. Mais à chaque fois, les gouvernements ont renoncé. Peur des bugs techniques, peur surtout du bug psychologique. Imaginez là, en janvier 2019, découvrant la feuille de paie, certains pourraient avoir le sentiment de s'appauvrir. Et ça, c'est un gros souci. À l'Élysée, comme dans notre salon de coiffure lillois, prenez John par exemple, c'est l'un des employés de Rémi, le coiffeur.
Vous savez pourquoi on est là, John?
Non.
Pour parler du prélèvement à la source. Ouais. Vous avez entendu parler du prélèvement à la source?
Un petit peu.
Un peu?
Oui.
En fait, c'est à partir du mois de janvier.
D'accord.
Où vous allez être prélevé pour les impôts directement sur votre fiche de paye. Mmh. Vous étiez au courant?
Ben, j'en avais entendu parler, mais je ne me sens pas concernée parce que je ne paye pas d'impôts.
Ah, vous ne payez pas d'impôts ?
Et non. Non, parce qu'avec mon salaire et mon fils à charge, j'ai pas de... je paye pas d'impôts, je suis pas imposable.
Et du coup, comment ça se passe pour lui ? Est-ce qu'il y aura quand même une déduction sur sa fiche de paye ?
Déjà, la première chose, c'est que je m'intéressais jamais à revenu à la base fiscale de mes salariés. J'apprends que John n'est pas imposable, tant mieux. C'est quand même aujourd'hui un renseignement confidentiel qu'ils viennent nous fournir. Hein. Moi, j'ignorais complètement sa situation fiscale. J'ai lu dans les différents guides que même ceux qui payaient pas d'impôts, qui bénéficiaient de réductions d'impôts, devaient payer les impôts, étaient remboursés en fin d'année de leur crédit ou d'avoirs fiscaux. Je ne sais pas comment ça va se passer pour lui.
Mais si vous n'êtes pas imposable parce que vous avez des réductions fiscales, à ce moment-là, vous allez quand même devoir payer des impôts et vous serez remboursé 9 mois après.
Bon ben, je la prends. Je la prends.
Vous la prenez ?
Je la prends, ouais. Vu que je me sentais pas concernée, je me suis pas plus penchée sur la question.
Parce que du coup, John, votre situation, c'est que bon, vous avez votre salaire, vous êtes en CDI ou...
Oui, je suis en CDI et j'ai mon fils à charge. Donc forcément, quand je travaille, je peux pas le garder. Donc après l'école, c'est tous les services cantine, garderie, nounou, centre aéré. Et tout ça, je le paie, mais quand je déclare mes impôts, en déclarant la route, en déclarant la nounou, je passe en dessous et j'en paye plus.
Ce sont des crédits d'impôt, c'est ça ?
Oui.
Ouais, vous voyez, on sera peut-être confronté à une difficulté. J'ai bien lu, hein, mais encore une fois, on n'a pas encore toutes les informations. Le crédit d'impôt est exclu de la base de calcul du taux de prélèvement à la source. Donc dans le cas de John, ça m'inquiète pour lui, pour moi, parce que comment on va faire si on lui retire 5, 6, 7% de son salaire et que le service d'impôt lui rembourse 9 mois après en fonction du traitement de sa déclaration fiscale.
Vous allez être remboursé normalement, hein, mais 9 mois après. Donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez une avance à l'État.
Ça. Mais au bénéfice donc de mes 3 semaines de trésorerie que je vais gagner selon les informations communiquées par le gouvernement, puisqu'on va gagner 3 semaines de trésorerie sur le dos de mes salariés.
Dans ce salon de coiffure, on n'est visiblement pas très près. Est-ce un cas particulier ? À 2 rues d'ici, il y a un boucher. Je vais lui poser la question.
Bonjour.
Bonjour. Alors, monsieur, vous vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle Merzouk.
Ici, vous êtes le gérant ?
Je suis le gérant, oui.
De la boucherie, une boucherie à Lille.
Voilà.
Et donc, le prélèvement à la source, vous en avez entendu parler ?
J'ai entendu parler, mais il paraît qu'il y a beaucoup d'indépendants et des libéraux qui ne vont pas être concernés, je crois. J'ai pas bien compris.
Est-ce que vous avez des salariés ici ?
Non, je n'ai pas de salariés. Je travaille avec ma femme. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les indépendants. Je n'ai aucune idée.
Alors, vous allez passer un coup de fil à l'administration fiscale ?
Passer un coup de fil, non. C'est ma femme. C'est celle qui s'occupe de l'administration. Elle va tout faire pour savoir tout. Hein. Elle va aller, au trésor public, elle va aller à la chambre du métier. D'abord, ils vont le mettre en place à partir de janvier. C'est là qu'on va voir comment ça va se passer. Il faut qu'on attende le mois de janvier.
Il va y avoir beaucoup de monde, hein, je pense. Il va y avoir la queue, non ?
On va faire la queue comme tout le monde. Mais du moment qu'on est concerné, on ne peut pas faire autrement.
Ouais. Est-ce que, de leur côté, dans l'administration, les agents des impôts sont prêts ? Hélène Guéra est secrétaire nationale CGT de l'administration publique. Dans l'administration, nous dit-elle, on essaye surtout d'anticiper les situations particulières. Hélène Guéra, est-ce que dans les services administratifs, tout le monde est prêt ?
En fait, on essaie de parer les problèmes de conception même du dispositif. L'exemple, c'est les gens qui n'ont pas déposé de déclaration cette année et qui sont non imposables et qui risquent de se voir appliquer un taux parce que l'employeur aura l'obligation d'appliquer le taux du barème, enfin ce qu'on appelle le taux neutre, du fait de la non-transmission du taux par l'administration fiscale parce qu'il n'y aura pas de déclaration déposée. Et donc, pour pallier l'inconvénient d'avoir un prélèvement indu en janvier et une réaction des contribuables dans les centres des finances publiques qui viendront mécontents, certains directeurs ont pris l'initiative de valider les données dont ils disposent, quand bien même la déclaration n'aurait pas été déposée.
Si on vous suit bien, ça veut dire des directeurs demandent à vos collègues, à leurs collègues, donc de bidouiller et de faire comme si la déclaration avait été faite.
Voilà, mais c'est dans l'intérêt et des contribuables et des collègues. C'est à l'initiative de certains directeurs quand ils ont une grosse population non imposable sur certains sites pour éviter d'avoir ce genre de difficultés. Le dispositif est mal conçu.
Est-ce que vous êtes prêt au niveau des bureaux d'accueil à accueillir des personnes qui viendraient demander des explications ?
Alors, l'administration fiscale annonce avoir formé 40 000 de nos collègues, ce qui est plus que les collègues habituellement chargés des accueils pour l'impôt sur le revenu. Donc, de ce point de vue-là, on peut s'en féliciter. Le problème, c'est l'afflux. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de gérer le nombre de gens qui vont venir? Compte tenu qu'on a déjà perdu 30 000 emplois et qu'il y a pas mal de services qui ont fermé, on sait que dans certains centres des finances publiques, notamment en Seine-Saint-Denis, il y a déjà plus de 3 heures de queue en période normale. Les gens se sont pas encore complètement appropriés les données du pass, donc on va voir quand ils vont recevoir les taux là, avec les avis d'imposition en septembre, comment ils vont réagir. Ils ont très peu de temps pour opter. Et s'ils ne le font pas, bah, les conséquences se reporteront au moment des prélèvements en janvier. Donc nous, on est très inquiets. On parle de risque de chaos dans les accueils. Évidemment, on le souhaite pas, mais on ne sait pas comment ça va se passer. On est très inquiets. Voilà.
Ces inquiétudes sont-elles justifiées ? Est-ce que le prélèvement à la source sera fatalement très complexe à mettre en œuvre ? Alexis Spire, directeur de recherche au CNRS, en est persuadé.
Le prélèvement à la source, on pourrait dire comme ça en première analyse, c'est une bonne idée, ça va être simple, etc. Et ça pourrait l'être si on avait une individualisation de l'impôt, c'est-à-dire si on n'avait pas ce système français qui date de la Libération, d'un impôt qui est à la fois familial et conjugal, où on a, par le système du quotient familial et du quotient conjugal, un impôt qui est déclaré au niveau du ménage. C'est un premier problème qui va se poser par rapport au prélèvement à la source, qui a été adopté dans beaucoup d'autres pays européens depuis bien longtemps, puisque la France est en fait le seul pays européen avec la Suisse à ne pas avoir de prélèvement à la source aujourd'hui, sauf que la plupart de ces pays européens ont un prélèvement à la source et aussi un impôt individualisé, ce qui fait que ce qu'on prélève dans les revenus, on prélève un impôt individuel sur des revenus individuels. Et là, ce qui va être très compliqué, c'est qu'on va prélever sur un revenu individuel un impôt qui est calculé au niveau du couple, au niveau de la famille, avec ce système de quotient conjugal où on mutualise en fait les revenus des deux conjoints et éventuellement on ajoute même les enfants pour ensuite calculer un taux. Après, la résultante politique de tout ça, elle est assez incertaine. C'est-à-dire que, avec cette baisse du salaire nominal, est-ce que les contribuables vont se retourner vers l'employeur en disant « ça va vraiment pas, mon salaire est insuffisant » ou est-ce qu'ils vont se retourner vers l'État en disant « ça va vraiment pas, les impôts sont trop élevés ». C'est les deux traductions politiques qui peuvent découler de ce mécanisme qui, en apparence, et c'est ce que voudrait faire croire le gouvernement, est neutre et uniquement une manœuvre technique, mais qui, en pratique, va quand même se traduire par de grosses surprises pour beaucoup de contribuables qui, pour l'instant, ont décidé de pas trop s'y intéresser parce que ça apparaît quand même assez lointain. Et puis finalement, on s'en remet à l'État. En fait, on finit par payer ce qu'on nous demande sans trop
comprendre pourquoi on paye,
sans trop savoir ou sans trop comprendre. Voilà. Et ça, c'est une vraie question parce que c'est aussi un vrai point de friction sur la question fiscale que ce voile d'ignorance qui est posé sur l'impôt et sur l'usage de l'argent public qui découle de ce prélèvement.
Inquiétudes et doutes sur le prélèvement à la source, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et on espère qu'il va répondre à ces inquiétudes et à ce doute, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous avez écouté avec énormément d'attention, j'imagine que vous les croisez aussi, ces Français, comme John, comme Merzouk. Il y a des précisions à apporter?
Il y en a plusieurs. D'abord, j'écoute toujours les reportages qui concernent ma région et particulièrement la métropole lilloise. Mais dire que ces questions que j'ai entendues sont des questions tout à fait légitimes. On a encore quelques mois pour parler de l'impôt à la source, donc nous ne sommes pas non plus dans un stress absolu. Mais il y a des questions auxquelles on peut apporter des réponses très simples. Je prends le cas de John, il a un taux zéro puisque par définition il ne paye pas d'impôt, malgré le fait qu'il travaille. Mais sa vie fiscale, j'ai compris qu'il avait un enfant, fait qu'il a un taux zéro, il ne paiera pas, si j'ose dire, d'impôt sur le revenu non plus l'année prochaine. L'impôt à la source, ce n'est rien d'autre qu'un changement de la façon dont on paye l'impôt, pas du calcul de l'impôt. Et donc en janvier prochain, il aura un taux. Ce taux, ce sera zéro, puisqu'il ne paye pas d'impôt, comme 50% des Français, dont beaucoup travaillent d'ailleurs. Et s'il touche 1 300 € net, ce qui semble être le cas, il touchera à la fin du mois de janvier 1 300 € net. C'est extrêmement important, parce qu'effectivement, il peut y avoir quelques fantasmes. C'est quoi l'impôt à la source? C'est une réforme de simplification. Depuis que la France a créé l'impôt sur le revenu en 1920, on se pose la question de savoir comment on adapte de façon contemporaine le fait que vous payez des impôts, alors que là c'est un an après, en ce moment on paye des impôts sur un an après des revenus qu'on a touchés, parfois des impôts du mois de septembre 2018, alors qu'on les a touchés en janvier 2017, pour plein de raisons, il y a plein de gens qui ont des vies qui changent, des CDD, des intérims, vous divorcez, vous mariez, vous perdez un conjoint, vous partez en retraite, ouais. Bon. Et il faut l'adapter au temps. Et comment est le système, pour prendre un exemple extrêmement simple, c'est pareil que les cotisations sociales. Sur votre feuille de salaire, vos cotisations, très complexes d'ailleurs, très nombreuses, parfois incompréhensibles, c'est votre employeur qui le paye à la sécurité sociale et à la retraite. Et vous voyez le brut et le net. Et bien l'impôt à la source, c'est la même chose, une ligne de plus que les cotisations sociales, et c'est le collecteur d'impôts, votre employeur, qui le versera.
Sauf Gérard Darmanin que l'impôt sur le revenu, contrairement à votre salaire et à vos cotisations sociales, il ne dépend pas que de votre seule personne, il dépend de l'ensemble des revenus de votre foyer. Et c'est ça la vraie spécificité française par rapport aux autres pays qui ont le prélèvement à la source, et qui fait que la complexité va rester quand même très importante.
Non, je ne le crois pas, ce sera au contraire une grande simplicité. Pour répondre à votre question, la France a choisi une familiarisation de l'impôt. Elle a choisi que lorsqu'on avait un lien juridique, soit avec ses enfants, soit avec quelqu'un à qui on partage sa vie, juridiquement parlant, c'est-à-dire un pacs ou un mariage, vous avez une familiarisation. Le gouvernement laisse la possibilité de la familiarisation de l'impôt, d'accord ? À part qu'au lieu de le payer dans votre foyer, vous le payez à travers la feuille de paye. Il y a 3 taux possibles. Et au début, il y a eu un fantasme, voilà, quelques semaines, quelques mois, pour dire « Ah, mon employeur va pas aimer de connaître mon taux, je n'ai pas envie de lui donner ». Il y a moins d'1% des gens qui ont choisi le taux neutre. C'est-à-dire le taux que vous donnez à votre employeur, qui ne correspond pas à votre vie fiscale, et que vous régularisez ensuite. Moins d'1% des contribuables. Donc les gens ont confiance dans leur employeur et dans le système fiscal. Après, il y a des gens qui ont choisi l'individualisation du taux. Il y a 2 personnes dans le couple, il y en a une qui gagne peut-être plus que l'autre, ils n'ont pas envie de payer en proportion des revenus du couple, pour reprendre un peu la question que pose monsieur Le Chiffre, et ben on paye en proportion de ses propres revenus. Ça, c'est pour l'instant moins de 7%. Je dis pour l'instant, puisqu'on a jusqu'au 15 septembre pour changer de taux, et chaque année, on pourra le changer si on le souhaite. Et puis après, il y a la familiarisation. Je voudrais répondre à un argument de monsieur Le Chiffre, qui était dans le programme du président de la République. L'individualisation de l'impôt sur le revenu. L'impôt à la source, c'est un premier pas vers ce que demandent depuis très longtemps, notamment les féministes, dire « je ne peux pas dépendre de celui qui, en général, gagne plus d'argent que moi », ce qui est malheureusement souvent le cas du mari ou du concubin masculin, par rapport à ma vie personnelle. Et j'ai pas intérêt parfois à travailler parce que ça va faire monter de tranche l'impôt sur le revenu. Donc on garde à la maison, si j'ose dire, permettez-moi cette expression, des femmes qui auraient pu tout à fait travailler.
Donc,
et dont le calcul fiscal...
Argument féministe, argument Gérald Darmanin.
Dont le calcul fiscal les empêche de le faire puisqu'ils y perdraient en couple. L'impôt sur le revenu, vu comme ça, ne le permettra plus.
Argument féministe, argument de simplification, vous nous dites non, ça va bien se passer, on est prêt, c'est féministe, c'est du progrès.
Mais tout le monde l'a fait.
Pourtant, il y a un Français qui est très réfractaire, ou qui est encore réfractaire pour l'instant, c'est Emmanuel Macron, nous on l'a bien entendu en Finlande, et il dit, si on décide de le mettre en place, est-ce que cette réforme, c'est la question d'actualité Gérald Darmanin, est-ce que la réforme, elle peut être tout simplement annulée?
Mais le doute fait avancer. Le Français qui est Emmanuel Macron, il a bien raison, et c'est pas très nouveau, vous vous y intéressez aujourd'hui, et c'est très heureux, et j'en suis très content, parce qu'on en parle beaucoup, du coup, on a gagné beaucoup de notoriété en quelques jours, le ministre en charge en est très heureux. Le président de la République, il y a un an après, travaille avec le Premier ministre et moi-même, a considéré qu'il fallait reporter d'un an la réforme. Ce que nous avons fait, c'était une grande décision heureuse, parce que les expérimentations n'étaient pas menées à place. Et c'est une réforme, c'est vrai, complexe, administrativement à mettre en place. Ça touche 36 millions de foyers fiscaux et votre vie, ainsi que la vie des entreprises et des collecteurs d'impôts. Donc oui, bien sûr, il fallait reporter. On y a beaucoup travaillé, j'y ai personnellement beaucoup travaillé. Former 40 000 agents publics, c'est pas simple. Répondre à toutes les questions complexes d'un impôt complexe,
c'est pas simple. Ça a été reporté. Est-ce que maintenant ça peut être annulé, voire reporté ?
Je réponds à votre question, moi-même d'ailleurs. Il m'arrive le matin quand je me lève d'avoir un doute sur un sujet. Donc je convoque dans ces conditions les directeurs, on y travaille, je fais beaucoup de déplacements, je suis rassuré, il m'appartient mardi, puisque la réunion est mardi, d'apporter ce que le président de la République a évoqué, rien de plus normal pour un ministre chef de son administration, des réponses claires à des questions
dès
que
mardi.
Vous posez. Mais là, moi je ne suis pas président de la République, nous choisirons ensemble politiquement l'avancée ou l'arrêt, puisque le président de la République l'a évoqué, de la réforme. Ce que je sais, madame, c'est que le président de la République a dit in petto dans les secrets des réunions que j'ai avec lui, mais aussi ex voto, puisque vous l'avez entendu vous-même et vous avez passé l'extrait, qu'il avait l'intention de faire la réforme,
qu'elle était
bonne pour les Français. Et est-ce que techniquement on est prêt? Oui, on est prêt. Est-ce que psychologiquement les Français sont prêts? C'est une question à laquelle collectivement nous devons répondre.
On a entendu, mardi, il sera décidé si on continue
non,
ou pas?
Non, moi mardi j'ai une réunion avec le président de la République et le Premier ministre. Je ne prends pas les décisions à la place du président, mais il me semble que c'est plutôt le calendrier du mois de septembre qui a été choisi pour le président pour définitivement décider.
Christian Chavagneux.
Monsieur le ministre, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. L'inflation repart, la croissance et les créations d'emplois diminuent, votre propre budget rabote ce qu'on appelle les revenus d'inactivité, les retraites, les aides au logement. Tout ça, ça va créer un choc sur le pouvoir d'achat. Et en plus, il y a le choc psychologique, même si c'est de l'illusion, le fait qu'on va avoir une fiche de paye un petit peu moins nourrie. C'est ça le vrai problème. Vous avez peur que ça joue sur la conso.
Alors, permettez-moi d'abord de dire que j'ai pas du tout la même analyse du budget que je vais présenter au nom du président et du Premier ministre, mais on y reviendra si vous le souhaitez.
On va prendre le temps d'y revenir, absolument.
Sur le deuxième point, qui est finalement le point le plus important, hein, le point cognitif. Enfin, finalement, il y a d'un côté l'aspect technique. Finalement, tout se passe bien. D'ailleurs, la presse, tout le monde dit oui, ça se passe bien. Et tant mieux, parce que c'est pas facile. Et puis après, est-ce qu'au mois de janvier, pour 50% des gens qui payent l'impôt, mon revenu que j'ai l'habitude de toucher baissera facilement? Est-ce que psychologiquement, je suis choqué? Bon. Je suis totalement opposé à cette affirmation. Pour la bonne et simple raison, cher monsieur, que la plupart des Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont mensualisés. C'est un argument qui compte.
6 sur 10.
L'intégralité quasiment des salariés, des ouvriers français. Vous savez, il y a 90% des Français qui ont un taux d'impôt compris entre 0 et 10, dont 50% à 0. La quasi-intégralité des Français ont une vie fiscale, si j'ose dire, normale, payent des impôts de 2 ou 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Il est vrai que pour les gens qui sont des grandes professions libérales, qui font beaucoup de crédits d'impôt, qui ont beaucoup de revenus, la fiscalité est complexe et donc dans ces conditions ne sont pas mensualisées. Mais la quasi-intégralité des 3 premiers déciles de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qui touche ceux dont vous pensez que c'est un argument psychologique, qu'on peut d'épargne, qu'on peut d'argent et finalement qui sont attachés à leur pouvoir d'achat, sont mensualisés.
Mais sauf que ça, Gérald Darmanin, ça renforce l'idée que c'est une réforme superflue.
Non.
À l'heure où les Français sont mensualisés et où votre argument sur la contemporanéité, on peut y revenir parce qu'il est en partie fallacieux. Alors, il est en partie fallacieux.
Emmanuel, on finit sur l'argument psychologique.
Mais c'est finalement la même question et je crois que Monsieur Le Chiffre a raison de la poser, même si rien n'est plus faux. Et je vais essayer de le démontrer. Chaque mois, les Français sont prélevés le 16 ou 17 du mois. Le 16 ou 17 du mois, les finances publiques viennent retirer l'équivalent de votre impôt. Monsieur Le Chiffre, l'équivalent de votre impôt qui est calculé sur l'année où vous aviez des revenus de l'année dernière. Vous partez en retraite, ce qui ne vous arrivera sans doute pas tout de suite cette année, mais enfin 400 000 personnes de nos concitoyens partent en retraite, ils payent cette année 100% d'impôt sur 70% de revenus. C'est un problème de pouvoir d'achat, pour le coup, extrêmement important. L'impôt à la source est fait pour tous ces gens, 7 millions chaque année, qui ont des difficultés de baisse de revenus. C'est une réforme d'amélioration de la trésorerie et d'amélioration du pouvoir d'achat. Le 16 et 17 du mois.
Bon, bah Christian, après.
Le 16 et 17 du mois, vous êtes prélevé par les finances publiques. Ce ne sera plus le cas en mois de janvier prochain. C'est un choc psychologique, c'est que le 16 et 17 du mois prochain, vous ne donnez pas d'argent aux impôts. Vous donnez l'argent de vos impôts à la fin du mois, au moment où vous touchez votre argent. Quand j'étais petit, on me disait « les fins de mois sont difficiles ». Il y a un article du Parisien encore cette semaine qui disait « c'est à partir du 20, disait Robert, à partir du 20 que c'est compliqué et j'attends mon salaire ». Rien n'est plus simple que de gagner 10 jours de trésorerie. Éviter les découvertes. Moi, j'étais élu d'une ville populaire où les gens venaient me voir parce qu'ils devaient faire des emprunts à la consommation, parce qu'ils n'avaient pas bien calculé leur impôt.
Alors, la question de Christian Chavagneux, le contribuable de Chavagneux.
Deuxième sujet sur la mensualisation. La mensualisation d'aujourd'hui, elle est calculée sur 10 mois. Au mois d'octobre, vous ne payez plus, à partir du mois d'octobre, votre mensualisation. Donc, l'impôt, il est concentré sur 10 mois. Il n'est pas contemporain. Il est au milieu du mois.
Il n'est pas contemporain, on est d'accord.
Il n'est pas contemporain.
Aujourd'hui. Mais il ne sera pas plus.
Mais il ne sera pas demain.
Bien sûr que si. On peut en discuter. Il n'est pas contemporain, puisqu'il est sur l'année dernière. Il est au milieu du mois et il est concentré sur les 10 premiers mois de l'année. Demain, il sera contemporain. Il sera à la fin du mois et il sera sur 12 mois. Toutes les simulations toute la presse montrent que vous payez moins d'impôts au mois de janvier de l'année prochaine.
J'ai fait ma déclaration d'impôt au printemps. C'est bien. En ligne en plus, vous voyez. Ouais. Et puis, mais ça porte sur mes revenus de 2017. Et donc, ce que j'ai transmis au fisc, c'est que le taux que le fisc a calculé transmet à mon entreprise et qui va s'appliquer en janvier 2019, c'est sur mes revenus de 2017. Qu'est-ce que ça a de contemporain?
D'abord, deux choses. Il y a une année de transition qui s'appelle l'année 2018. Alors c'est un petit peu la fiction économique, mais enfin ce qui est vrai, c'est quand on a créé l'impôt sur le 1920, on l'a fait avec cette année de décalage. Donc depuis un siècle, désormais, nous vivons avec un année de décalage d'impôt. Donc ce que nous avons fait fictivement, c'est un petit peu complexe, mais je crois que pour le besoin de la démonstration, je vais vous montrer que cette année est une année de transition particulière, on a fait une année blanche. Les Français ne paieront jamais les impôts de l'année 2018. Cette année, vous payez les impôts de l'année dernière, en janvier prochain, vous paierez les impôts qui correspondront à vos revenus de janvier prochain. Mais vous avez dû faire une déclaration d'impôt pour plein de raisons qui est un petit peu technique, qui permet simplement d'avoir une indication de votre taux d'imposition. Mais vous ne paierez jamais les impôts de 2018 puisque l'État s'assoit sur cette année, elle avance son année d'impôt. Et c'est qu'à la fin des temps qu'on ne touchera pas l'argent, mais comme ce sera pas grave, puisque ce sera à la fin des temps, on n'y reviendra pas. En revanche, dans une année sans année blanche, qu'est-ce que vous allez faire? Au mois d'avril prochain, monsieur, ou au mois de mai, vous allez déclarer votre impôt. Et votre impôt, c'est quoi? C'est à la fois un taux qui correspond à votre vie familiale. Est-ce que vous êtes divorcé? Vous êtes marié? Très bien. Et c'est à la fois un montant. Vous payez un taux et un montant. Ce qui est contemporain, c'est le montant. si vous touchez, par exemple, monsieur, vous êtes en CDD, là, janvier, février, vous êtes en boulot, vous touchez 1500 euros par mois, et puis vous êtes licencié, ou votre CDD prend fin, vous touchez 800 euros par mois ou 900 euros par mois. Vous savez d'ailleurs que les gens qui sont licenciés, ils touchent pas le premier mois de chômage, donc ils payent parfois des impôts mensuels sur des revenus qui ne touchent pas, ça leur pose des grands problèmes sociaux. Et ben, vous avez, admettons, un taux à 3%, vous payez 3% de 1500 euros en janvier quand vous touchez 1500 euros, puis vous payez 3% de 800 euros si jamais vous êtes en revenu d'intérim, par exemple, au mois de mars. Donc, si vous avez la chance d'avoir des revenus stables, vous me dites, mais non, ben, c'est compliqué, monsieur, parce que vous avez sans doute une vie stable. Mais il y a plein de nos concitoyens qui ont des difficultés sociales, qui ont des vies d'intérim, d'heures sup, de primes, de licenciements.
Non, mais ça ne vaut, en fait, vous l'avez dit, ça ne vaut que pour les ménages dont le revenu diminue. Or, en France, vous avez à peu près 38% des ménages dont les revenus baissent chaque année. Vous en avez 62% dont les revenus augmentent. Ceux-là, ils ne payaient sur cette augmentation de revenus que l'année suivante. Monsieur, eux perdent en trésorerie. Donc, ça fait quand même plus de gagnants, plus de perdants que de gagnants.
Non, ce n'est pas vrai. Tout ça, ce n'est évidemment pas vrai. Pour plein de raisons qui sont très importantes. D'abord, on va restituer tous les crédits d'impôt des gens qui manifestement gagnent un peu plus d'argent et qui font des crédits d'impôt.
Mais avec des mois de retard, monsieur Darmanin.
Pas du tout. Nous avons avant le 15 janvier, nous verserons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de l'argent directement pour 3 millions de personnes sur des comptes en banque parce que votre maman est dans un EHPAD et que vous avez un crédit d'impôt parce que vous embauchez une nounou. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Par contre, monsieur Le Chypre, moi
Le Chypre,
c'est dans James Bond, excusez-moi. Monsieur Le Chypre, la vérité, c'est que oui, nous assumons de faire une réforme, en tout cas, cette réforme. C'est une réforme sociale au sens où elle aide en trésorerie tous les gens qui ont des difficultés de
tout
vie.
Tout va bien socialement, tout va bien politiquement, tout va bien techniquement. Non, mais qu'est-ce qu'il prend au président
Macron? Tous
les gens
qui ont des difficultés de vie. Tout va bien. Mais le président de la République, il est dans son rôle. Et croyez bien que le doute tous les matins, j'espère que ça vous anime, anime aussi tous ceux qui sont en tête de ces réformes. Est-ce que tout va bien se passer en janvier? Parce que comme vous l'avez dit dans votre reportage, beaucoup de gouvernements l'ont essayé, n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, pour plein de raisons. Aujourd'hui, la technique, Internet, les algorithmes, la façon dont on fonctionne.
Alors,
mais aussi l'énergie que j'espère l'administration fiscale y met avec moi-même pourront démontrer, je l'espère, au Premier ministre, au Président de la République, que c'est une grande réforme pour les Français. Et comme toute réforme, elle a un moment de doute qui sera le mois de janvier, mais ce doute parfois fait avancer.
Et ça entre en collision, si je peux dire, avec votre deuxième dossier, qui est le budget, parce que s'il y a un petit problème psychologique, c'est aussi parce qu'il y a des choix dans cette rentrée un peu complexe avec l'inflation qui repart, la croissance qui ralentit. Projet de budget. C'est le coup de rabot, Gérald Darmanin, sur les prestations sociales, sur les retraites. Il y a un souci de pouvoir d'achat.
C'est le contraire du rabot, ce qu'on fait. Ce qu'on fait est évidemment contestable politiquement. On a fait des choix. Ça fait 2 années que je présente un budget au nom du Premier ministre et du Président de la République. C'est 2 budgets de choix. On peut les contester, ce sont des choix politiques. L'année dernière, c'était des choix qui consistaient à dire on augmente très fortement l'argent que l'on met pour le régalien, 2 milliards par exemple d'augmentation par an de l'armée. C'est une augmentation sans précédent depuis la guerre froide, pour plein de raisons que le Président de la République a évoquées. On réforme des choses qui ne fonctionnaient pas et on baisse des budgets très fortement. C'est le cas des contrats aidés, rappelez-vous le débat. C'est le cas du logement, rappelez-vous les débats. Et on baisse une fiscalité, notamment la fiscalité du capital, c'était lié à la fin de l'ISF, ça n'avait jamais été fait, ou la baisse de l'impôt sur les sociétés. Cette année,
les retraités en première ligne, Gérald Darmanin.
Nous faisons le choix, mais les retraités ne voient aucune baisse d'impôt, aucune baisse d'impôt spécifique, sauf la taxe d'habitation, excusez-moi, bien sûr, puisqu'on ne touche pas à l'impôt sur le revenu, et ne voient aucune baisse de pouvoir d'achat. Il n'y aura pas de baisse, il y aura même une augmentation des retraites.
Aux retraités, on va vous augmenter que de 0,3, revaloriser que de 0,3, alors que l'inflation est de 1,7, c'est une baisse de pouvoir d'achat.
La dernière revalorisation, non, excusez-moi, d'abord le choix qui a été fait pour y terminer, non, je vais revenir, le choix qui a été fait, c'est le choix du travail. On a choisi, quand vous faites un choix, on a choisi d'aider ceux qui soit reprennent un travail, d'aider ceux qui vont reprendre un travail ou qui travaillent. Je prends l'exemple d'un ouvrier dans une usine à Tourcoing. S'il est aujourd'hui au SMIC, il a 130 euros de plus par mois de prime d'activité, parce que nous augmentons la prime d'activité et c'est une dépense publique qui est importante, qui est parfois d'ailleurs contestée. Nous augmentons la possibilité de faire des heures supplémentaires, et moi j'y suis très heureux socialement, c'est une grande mesure, 11% d'augmentation de pouvoir d'achat. Nous baissons les cotisations salariales un peu en janvier, beaucoup au mois d'octobre, et par ailleurs, puisqu'on travaille et puisqu'on paye des impôts, nous baissons très fortement la taxe d'habitation pour ces personnes. Pour les retraités, aucune baisse de retraite n'existe. Mais vous dites 0,3. J'entends que c'est moins que l'inflation. Mais la dernière fois, c'était 0,8. Et le gouvernement de François Hollande, par exemple, c'était 0.
Alors attendez,
0.
Non, le gouvernement maintenant d'Edouard Philippe. Est-ce que Monsieur Darmanin, ministre du Budget, vous êtes prêt, comme vous le demande votre majorité, à faire plus de revalorisation pour ceux qui touchent une petite retraite?
Mais c'est le cas. J'aurai l'occasion d'avoir le débat parlementaire, mais d'ailleurs vos collègues du Parisien cette semaine, très honnêtement, ont démontré que pour les petites retraites, Vous savez, ceux qui touchent 700, 800, 900 euros par mois. L'augmentation de pouvoir d'achat est très importante. D'abord, nous augmentons le minimum vieillesse comme aucun gouvernement l'a fait. Ce sera une augmentation extrêmement importante. On passe de 800 à 900 euros pour des millions de retraités qui vont avoir à connaître, si j'ose dire, la sortie du seuil de pauvreté. Et effectivement, nous demandons aux retraités, donc qui ne sont pas aisés, mais qui sont moins modestes, une petite décélération de leur augmentation par rapport à l'inflation.
Donc nous pas de geste particulier, on va terminer là-dessus.
Nous augmentons le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes. Et il est vrai que nous demandons des efforts, mais ça a toujours été dit dans le programme du président de la République.
Donc pas de revalorisation différente.
Mais nous aurons un débat parlementaire et ce sera toujours intéressant de le faire. Si vous me posez la question de savoir si on a déjà différencié, la réponse est oui. Et nous l'augmentons de 100 euros par mois.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Avant de se quitter, un dernier tour par le bureau Ma vie au boulot, c'est la chronique de Sandrine Foulon. Sandrine, cette semaine, la santé au travail.
Oui, Alexandra, il n'y a pas que les retraites et l'assurance chômage, il y a la santé au travail. Elle aussi fait l'objet d'une négociation qui s'ouvre entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Alors je sais, c'est la rentrée, nous sommes censés être gonflés à bloc, mais pour ce qui est santé au boulot, c'est la petite forme. 6 entreprises sur 10 déclarent être confrontées à une hausse de l'absentéisme depuis 5 ans, nous dit l'association référentielle de la absentéisme. L'enquête européenne de Refound nous classe 29e pays sur 35 pour l'évaluation des risques. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, explique que nous sommes l'un des rares pays en Europe à combiner une dégradation des conditions de travail et de la performance du marché du travail. Les 2/3 des salariés français sont exposés à au moins 3 facteurs de risques psychosociaux et il y a encore 10 ans, plus de 2 millions de salariés étaient exposés à au moins un produit chimique cancérogène.
Sandrine, vous nous plombez le moral. Sait-on dans quel sens peut aller cette réforme de la santé au travail?
Alors ces derniers jours, une pluie de rapports est tombée. Tous ne défendent pas la même approche. Le rapport de la députée de la majorité, Charlotte Lecoq, préconise de regrouper tous les acteurs de la prévention, de simplifier les obligations des employeurs, de créer une cotisation patronale unique dédiée à la santé au travail et modulable selon l'engagement des entreprises en matière de prévention. Le rapport de l'universitaire Paul Frima, qui a été dévoilé par nos confrères de Santé au travail, et moins dans l'incitation et beaucoup plus dans la contrainte, dans la sanction pour obliger les employeurs à mieux tracer les risques chimiques. Remis en avril au ministre de la Santé et du Travail, ce rapport vient tout juste d'être rendu public sur leur site. La santé au travail, c'est aussi une façon de s'emparer du problème des arrêts maladie qui ne cesse d'augmenter, surtout à cause de l'allongement du départ en retraite à 62 ans. Un arrêt long, c'est 76 jours en moyenne pour les 60 ans et plus, 18 jours pour les moins de 25 ans. S'il faut rester plus longtemps au travail, il est nécessaire qu'on change ses conditions d'exercice. La réforme des retraites de 2010 a fait du bien aux finances de l'assurance vieillesse. Elle est en train de faire du mal à l'assurance maladie. C'est vrai que les arrêts de travail coûtent cher. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a déclaré hier que 15% d'entre eux étaient des abus dans la négociation et les arbitrages à venir. Toute la question va être de savoir qui, de la chasse aux coups ou de l'amélioration de la santé au travail, sera privilégié.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.